Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute!
La crise est réelle, vraiment très préoccupante, et je pense qu'il est de notre devoir d'agir.
Comment réussir la transition écologique?
Un effondrement général, systémique et global du monde.
Nos jeunes expriment de plus en plus leur mal-être et leur difficulté accrue à se projeter dans l'avenir.
Aujourd'hui, face à l'urgence, il est temps de dire stop.
Sommes-nous foutus?
Comment un militant écolo vit la tension entre espoir et désespoir pour la planète? C'est ce que l'on cherche à savoir en recevant notre invité du jour. En l'écoutant, on verra que la foi est utile, voire nécessaire, à un engagement écologique ni idéaliste, ni fataliste, mais rempli d'espérance et d'actions concrètes. Générique.
En vérité, je vous le dis.
Nous devons revenir au centre.
Real life for your eyes.
It is like a finger pointing away to the moon.
Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
Christelle,
Jean-Christophe
et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode où l'on accueille un invité spécial pour parler d'écologie. Alors je dis aussi bonjour à mes intervenants habituels, mes super potos, bonjour JC.
Salut Léa.
Bonjour Christelle.
Content que tu nous aies pas oublié Léa.
Mais surtout quand même aujourd'hui, un bonjour tout spécial à toi Jean-François Mouhot.
Bonjour.
On est très heureux que tu sois là avec nous.
Pareillement.
Pour ceux qui nous écoutent depuis plusieurs saisons déjà, on en a 5 sous la manche. Si c'est pas le cas, on vous invite à aller faire un petit tour dans la saison précédente. On a déjà parlé d'écologie. On en a parlé dans la saison 1. On parlait notamment du Club de Rome. On parlait un petit peu de collapsologie. On était en train de créer Sagesse et Morito. Puis quand même, on s'intéressait à cette thématique tellement importante de notre société aujourd'hui. Et puis, les saisons ont continué. À la saison 4, on a eu la chance d'avoir plusieurs interviews avec des personnes spécialisées dans l'environnement ou l'écologie ou les écolieux qui nous ont donné leur point de vue, leurs idées. Dans la saison 5, on a rempilé parce que quand même, c'est vraiment très très important cette thématique. Et puis, il y a eu tout un tas de conversations avant et après les épisodes. JC, à un moment, on s'est rendu compte que tu étais un cas désespéré par rapport à l'écologie. Il fallait qu'on fasse venir un spécialiste. Non, je blague.
Mais vous avez été un peu traumatisé quand vous êtes venu au Canada, quand même.
Oui, ouais, parce que quand même, la gestion des ressources au Canada par rapport à l'Europe, ça nous a fait un petit peu peur. Mais de spécialistes d'écologie autour de la table, il n'y a personne, à part notre invité. Et c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de t'avoir. Jean-François Mouhot, tu es directeur de l'association Arocha France. C'est une organisation chrétienne de protection de la nature et de l'environnement. Tu es aussi docteur en histoire et spécialisé par la suite en histoire de l'environnement, donc une branche de l'histoire qui s'intéresse au rapport entre les hommes et leur environnement. Tu es auteur de nombreux ouvrages et articles et tu interviens régulièrement dans des conférences. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour te décrire aux auditeurs ?
Je crois qu'on peut dire que ce qui définit particulièrement mon rôle au sein de l'association Arocha France, c'est la foi chrétienne qui sous-tend toutes les actions d'Arocha. Et alors, ça n'a pas été explicitement mentionné, mais je suis chrétien aussi, fondamentalement.
Merci beaucoup pour la précision de cette présentation. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Jean-François, restez pour la suite de cet épisode. Merci en tous les cas d'avoir accepté de venir dans Sagesse et Morito. Alors, je vais me tourner vers Christelle qui va nous faire un petit topo pour nous lancer un petit peu dans le sujet.
Mais oui, Léa, merci. Et puis, bienvenue Jean-François. Souvent, quand on parle de spiritualité, on pense introspection, intériorité. Mais si on se penche sur la sagesse biblique, plus spécifiquement, on peut se rendre compte que la nature y est omniprésente. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu déclare chaque création comme étant bonne. tous les animaux, sauvages et domestiques, sont préservés par Dieu dans l'arche de Noé, qui est une preuve de la préoccupation divine pour chaque espèce et pas uniquement les êtres humains. Mais la nature ne se limite pas aux animaux. Tout au travers de la Bible, il est question de plantes et d'arbres, des arbres symboliques comme l'arbre de vie ou l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, qui sont présents au début de la Bible. À la fin de la Bible aussi, dans l'Apocalypse, on retrouve cet arbre de vie et dont les feuilles donnent la guérison des nations. Donc tout ça témoigne de l'interconnexion entre spiritualité et monde naturel selon la sagesse biblique. Donc voilà pour nous l'occasion de puiser dans cette sagesse ancienne. Mais cette introspection peut être déconcertante. La destruction actuelle de l'environnement est aussi la nôtre, puisqu'elle a des conséquences sur les êtres humains et elle pose la question de nos modes de vie. La sagesse biblique, lorsqu'on la revisite, elle nous donne une invitation à repenser notre rapport à l'environnement à l'aune de la spiritualité. Alors, une question pour toi, Jean-François. Lorsqu'on se pose devant ces enjeux que je viens de décrire, la crise environnementale, d'après toi, est-ce qu'elle est, tu as trois choix, est-ce qu'elle est petit 1, réelle mais exagérée par les médias, petit 2, préoccupante, mais on peut agir, ça va, ou petit 3, tout est foutu, le monde va s'effondrer. Laquelle de ces trois options? L'effondrement, la capacité d'agir, c'est pas trop inquiétant, ou réel, mais bon, c'est exagéré.
Alors, ce serait la réponse du milieu, la réponse médiane, on va dire.
Okay.
C'est que je pense que la crise est réelle, qu'elle est vraiment très préoccupante. Et je pense qu'il est de notre devoir d'agir par obéissance, qui n'implique pas nécessairement que je suis convaincu. C'est pour ça que la formulation telle quelle, j'y souscris pas totalement non plus, parce que ça donne l'impression que parce qu'on va agir, on va solutionner le problème. Et je ne suis pas aussi optimiste que ça. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on ne va pas peut-être arriver à solutionner le problème, mais je serais très, très prudent de surtout pas dire si on s'engage tous aujourd'hui, c'est bon, le problème, il va être réglé.
Alors, Jean-François, justement, pour nous parler un petit peu plus de toi et nous parler d'écologie, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'engager dans la lutte écologique ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai grandi, tu as fait allusion tout à l'heure au rapport du Club de Rome. Je suis né 4 ans après le rapport du Club de Rome. Et je pense que ça a une année de canicule aussi, en 76 pour être très précis. Depuis que je suis tout petit, en particulier, je me rappelle très bien d'un instit en CM2. Donc si vous êtes instit, vous voyez, vous pouvez avoir de l'impact sur vos élèves. Je devais avoir 12 ou 13 ans et je me rappelais très bien qu'ils nous avaient parlé déjà de la surexploitation des ressources. Alors à l'époque, on parlait très très peu du changement climatique, ça, ils n'en avaient pas parlé. Mais pour dire que depuis que je suis tout petit, j'avais déjà cette préoccupation d'une impression de gaspillage énorme des ressources. Et que j'avais l'intuition que ça n'allait pas pouvoir continuer ad vitam aeternam.
Donc déjà, c'était présent en toi, même avant toute expérience et toute réflexion scientifique.
Ouais, tout à fait. Peut-être de l'ordre de l'intuition, je me rappelle. Je m'étais posé la question, mais avec tous ces moteurs qui fonctionnent, toutes ces voitures qu'on allume, ça ne crée pas du réchauffement. Alors, c'était un faux raisonnement. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Tout ça pour dire que c'était présent très, très fort dès mon plus jeune âge. Et puis, alors ensuite, je suis né dans une famille chrétienne, et puis j'ai fait beaucoup de jeunes, à l'âge de. J'ai vécu une expérience de conversion quand j'avais 12 ans, je me suis fait baptiser, et puis ensuite, à l'adolescence, vers 16-17 ans, je me suis éloigné de l'église en fait. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai fait une crise de foi, dans le sens où j'ai. Justement, j'étais interpellé par le fait que dans l'Église, au sens large, que je fréquentais, c'est-à-dire je naviguais dans plusieurs mouvements d'Église, j'ai fait beaucoup de camps de jeunesse, etc. Je sentais pas du tout d'intérêt et même un peu du mépris parfois pour les questions d'écologie qui me préoccupaient. Et donc j'ai envoyé tout balader. Alors il y avait d'autres raisons, je simplifie un petit peu, mais c'était une des raisons qui m'a amené à envoyer tout balader. Et puis j'ai voulu vivre ma vie, j'ai jamais vraiment arrêté de croire en Dieu. Parce que justement l'idée que l'univers qui est tellement beau. Et quand j'étais gamin, je faisais des camps avec mes parents. Mon père était souvent impliqué dans des camps avec les GBU, les groupes bibliques universitaires. Il y avait un chalet dans les Alpes et on allait tous les étés. Et j'étais ébahi de la beauté de la nature autour de nous. Et je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de créateur derrière tout ça.
Donc à la fois, tu avais une sensibilité à la nature qui était telle que ça te poussait à la spiritualité,
ouais.
Mais vers les cercles spirituels que tu fréquentais, tu ne retrouvais pas du tout cette sensibilité à la nature et à la question écologique, au contraire.
Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un peu l'idée que tout ce qui comptait, c'était de sauver les âmes, quoi, de sauver. Donc on annonçait l'évangile aux gens, mais c'était assez désincarné, c'est-à-dire que c'était pas. Ça n'avait pas finalement tellement d'impact dans la vie quotidienne. Il suffisait, entre guillemets, de croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui donc s'est sacrifié pour nous, pour nous sauver. Et finalement, ce n'était pas très grave s'il n'y avait pas de résultats concrets dans la vie quotidienne. Alors il y avait des différences dans les milieux chrétiens, par exemple sur le plan de l'éthique sexuelle, mais pas tellement dans la façon de vivre très consumériste que je voyais autant chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Et donc, j'ai eu le sentiment, du haut de mes 17 ans, très idéaliste et très dans l'absolu, etc., et j'ai eu l'impression d'une forme d'hypocrisie. Et ce qui m'a amené à m'éloigner de l'Église. Et je me suis rapproché, du coup, des milieux écologistes. Et je me suis engagé dans des associations. En fait, j'ai découvert, à ma grande surprise, que dans le milieu de l'écologie, je retrouvais pas mal de comportements un peu de type ce que la Bible décrit dans des comportements un peu de pharisiens. C'est-à-dire
donc,
des comportements.
Est-ce que tu peux un petit peu situer, toi qui en plus es docteur en histoire, pour les auditeurs, c'est quoi les pharisiens ?
Alors les pharisiens, c'était, on va dire, pour simplifier, les très religieux de l'époque de Jésus. C'est-à-dire c'était des juifs très religieux qui respectaient à la lettre les lois, enfin qui essayaient de respecter à la lettre, parce qu'en fait ils n'y arrivaient pas, justement c'était tout le problème, c'est qu'ils essayaient de respecter à la lettre les préceptes de la Bible, et ils étaient très souvent dans une forme de jugement moral très fort. Ils imposaient, en quelque sorte, ils voulaient imposer des règles très strictes de vie aux gens de leur époque. Et Jésus, tout au long de son ministère, s'est battu, entre guillemets, à coup de dialogue, hein, de discussion avec ces pharisiens, en leur disant, mais vous imposez en fait des règles de vie aux gens que vous n'arrivez pas vous-même à respecter, par exemple, en plus, vous ne tenez pas compte des difficultés de la vie quotidienne d'un certain nombre de gens, parce que vous êtes, souvent, il s'agissait de personnes plus éduquées, peut-être plus à l'aise financièrement, etc. Et on retrouve vraiment de façon assez flagrante, il me semble, dans le milieu écologiste, ce type de comportement.
C'est pas un petit peu dur, ça, avec les cercles écolos ? Parce que, du coup, tu viens de parler d'hypocrisie, de donner à faire, de donner des règles que nous-mêmes, on n'arrive pas à suivre, d'être dans une sorte de « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais », c'est pas un petit peu violent ?
Alors, si, c'est effectivement assez violent, mais ce que je vais tout de suite qualifier, c'est que je m'inclus complètement là-dedans. C'est-à-dire que moi-même, je suis conscient que bien souvent, je ne suis pas capable moi-même de respecter les choses que je souhaiterais faire. Mais là encore, ça rejoint tout à fait ce que dit l'apôtre Paul, par exemple, en disant « le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je veux faire, ben, par contre, je le fais.
Mais » Justement, Jean-François, parce que donc, tu parles du fait de suivre ce qu'on dit ou pas, mais les écolos, grosso modo, si moi j'ai bien compris, en général, quand on les voit dans les médias, c'est des lanceurs d'alerte, c'est des gens qui tirent la sonnette d'alarme, c'est des gens qui nous disent, bah, surtout s'ils sont en fait scientifiques, du coup, et à coup de données scientifiques, on a beaucoup entendu parler du GIEC ou d'autres mouvements, ben, il y a quand même une réalité. Alors, bien sûr, il y a peut-être cet esprit de pharisien, mais il y a une réalité derrière. Je pense que tu es d'accord, si tu es scientifique. Parle-nous peut-être de cette réalité. Mm-hmm. Ça aidera peut-être aussi les auditeurs à voir dans quel contexte on se trouve. C'est peut-être un tour d'horizon de la crise environnementale. De quoi on parle quand on parle de ça ?
Oui, bien sûr. Et je voudrais vraiment pas donner l'impression que, là encore, quand je disais que je retrouvais dans les milieux écolos un comportement qui me rappelait un peu celui des pharisiens de la Bible, je rappelle aussi que c'était avec mes yeux de 17 ans, encore une fois, plein d'idéal, etc. Et que aujourd'hui, je reformulerais peut-être pas tout à fait les choses de la même façon. Et encore une fois, tu as tout à fait raison que, par ailleurs... mais de la même façon que les pharisiens insistaient sur l'importance de respecter la volonté de Dieu, etc., le discours écologiste a aussi tout à fait, malgré des travers qui sont en fait des travers humains que tout le monde a, hein, y compris moi encore une fois, qui sont effectivement des véritables donneurs d'alerte. Et j'irais même plus loin en disant que pour moi, d'une certaine façon, les scientifiques qui alertent sur les dangers de la crise écologique aujourd'hui sont peut-être, je pose la question, sont peut-être aujourd'hui les prophètes, les nouveaux prophètes. Parce que typiquement, les prophètes dans l'Ancien Testament, qui étaient un peu les lanceurs d'alerte à l'époque, hein, ils disaient au peuple, là, attention, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas bien et il va y avoir telle et telle conséquence. Ben, ces prophètes, ils étaient souvent jamais écoutés. Enfin, ils étaient jamais écoutés, en fait. Et on se détournait les oreilles, on se bouchait les oreilles en disant il y a plein d'épisodes dans la Bible, je pourrais raconter. Il y en a, il y a plein d'histoires amusantes, même. En tout cas.
Les prophètes, en même temps, dans l'Ancien Testament, vont lancer des messages de. Des avertissements par rapport au jugement à venir ou aux conséquences des actions qui s'en viennent. Et là, j'en souscris à ton analogie. Mais il y a aussi l'image du paradis ou l'image de la promesse. Je veux dire, souvent, les messages prophétiques, c'est des contrastes de possibles futurs sombres et de possibles futurs heureux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le discours scientifique... on n'entend pas beaucoup de paroles d'espérance, disons.
Bah, justement,
ça.
Jean-François, fais-nous le tour d'horizon de la crise environnementale. Ouais. Et puis peut-être après, on pourra essayer de voir quelles sont les possibles zones d'espérance. Mais au moins de savoir de quoi on parle, on t'écoute. Ouais.
Alors, on est en fait face à une crise multiple. On a deux grosses crises majeures qui sont la crise du changement climatique... et la crise de l'effondrement de la biodiversité. La première crise, donc, c'est celle du changement climatique, qui est en fait une double crise elle-même, qui est une crise à la fois du climat et aussi une crise de l'énergie. Puisqu'en fait, la crise du climat, elle est causée par notre boulimie énergétique, par notre addiction aux énergies fossiles, donc au gaz, au pétrole, au charbon, qui font que chaque fois qu'on allume un moteur de voiture, qu'on prend l'avion, qu'on chauffe notre maison, on émet du dioxyde de carbone qui vient en quelque sorte épaissir le manteau qui recouvre la Terre, le manteau atmosphérique, qui crée une élévation des températures qui souvent n'inquiète pas un certain nombre de personnes parce qu'on se dit, ben, on parle dans les rapports scientifiques, tu as parlé des rapports du GIEC par exemple, qui font autorité sur cette question climatique. On parle d'élévation moyenne de température là, à l'heure actuelle de 1,2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et souvent, ce chiffre, moi-même, j'ai été pendant très longtemps climato-sceptique, ce chiffre ne fait pas vraiment peur. Qu'est-ce que c'est que 1,2 degré de plus ou de moins
Quand on est Canadien, on l'accueille favorablement.
Alors oui, on pourra revenir sur le cas du Canada qui est... Vous accueillez favorablement quelques degrés de plus en hiver peut-être, mais en été, on voit les feux de forêt géants, par exemple, cet été au Canada, etc. Donc on voit que c'est une réalité quand même beaucoup plus problématique. Et j'aime souvent comparer plutôt à l'idée d'une fièvre qui serait emparée de la Terre. Je trouve que l'image est plus parlante parce qu'en fait, on voit bien que la température de l'homme moyenne, c'est 37 degrés, le corps humain, l'homme et la femme, et que si on a une élévation de la température de 1,2 degrés, bah là, on a une bonne fièvre. Et que si on monte à 41, on voit que c'est plus encore la même chose qu'entre 39 et 41, etc. Donc ça, c'est la première crise. Lié à ça, il y a notre dépendance aux énergies fossiles qui est un vrai problème en soi. J'ai parlé on a parlé du rapport du Club de Rome qui explique bien qu'au bout d'un moment, ces ressources, elles vont se tarir, elles vont être limitées. Et on est dans une telle degré de dépendance vis-à-vis de ça que, on l'a vu par exemple en Europe avec ce qui s'est passé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que d'un seul coup, la Russie menaçait, vous êtes du chantage avec l'approvisionnement en gaz et tous les problèmes que ça créait, problèmes aussi du fait qu'on alimente, par exemple, en chaque fois que je vais faire le plein de ma voiture, je donne de l'argent aux monarchies d'Arabie Saoudite, etc. Et qu'on est aussi dépendant vis-à-vis d'eux.
c'est lié à la réalité de notre fonctionnement sociétal depuis l'ère industrielle et à notre fonctionnement global d'interdépendance entre différents États et surtout envers ceux qui ont les ressources comme le charbon et le pétrole qu'on recherche.
C'est ça.
Cette réalité-là.
Voilà, c'est ça. Et c'est, alors on pourrait rentrer dans pas mal de détails, mais c'est ce principe de l'avantage comparatif hein, de Ricardo, par exemple, l'économiste Ricardo, qui explique que ben, aujourd'hui, on va aller chercher des ressources à l'autre bout de la planète parce que ça coûte moins cher de les produire à l'autre bout de la planète et on va se focaliser sur des choses, par exemple, qui vont être plus faciles à produire localement. On va démultiplier les échelles pour pouvoir produire plus localement. Typiquement, en Angleterre, il était facile de faire de la laine de mouton parce que c'est facile de faire de l'élevage, etc. Et par contre, c'est beaucoup plus difficile à l'époque de Ricardo de faire pousser de la vigne en Angleterre. Maintenant, il y a des vignes en Angleterre à cause ou grâce au changement climatique. Mais à l'époque, il était beaucoup plus cher de faire, beaucoup plus difficile de faire pousser du vin, enfin de faire du vin en Angleterre. Et donc, on échangeait. L'idée, c'est on va échanger de la laine produite en Angleterre et même des textiles, puisque l'Angleterre s'était spécialisée grâce à la révolution industrielle dans le textile. Et on va aller, par contre, acheter du vin
chez les Français,
chez les Portugais ou chez les Français à Bordeaux. donc effectivement, il y a eu tout un système en fait qui a été conçu à partir de l'arrivée des énergies fossiles, qui a permis, parce que c'est grâce aux énergies fossiles en partie que on a pu aller chercher de plus en plus loin des ressources, etc. Mais avec des tas de problèmes collatéraux.
Donc on comprend un des problèmes de la crise écologique, c'est les changements climatiques. Tu en as mentionné un autre, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est ça ?
L'effondrement de la biodiversité, effectivement, c'est un deuxième problème qui est tout à fait lié au premier, hein, parce que le changement climatique est aussi responsable d'une partie de la perte de biodiversité. Donc aujourd'hui, c'est le troisième facteur de perte de biodiversité dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est cette perte de biodiversité et en quoi ça nous concerne ? La perte de biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, c'est donc l'accroissement, hein, la multiplication de la disparition des espèces et aussi la diminution de l'abondance des espèces. Donc il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent et il y a aussi de moins en moins d'individus à l'intérieur de chaque espèce. Alors là encore, il y a des exceptions. Il y a des espèces qui vont se mettre à proliférer. Hein, c'est pas parce qu'une espèce de quelconque va se mettre à proliférer qu'il n'y a pas un problème général de diminution. Voilà. Mais donc, cet effondrement de la biodiversité nous impacte aussi. Alors d'abord, on l'a dit et tu l'as rappelé, que la Bible nous parle du fait que Dieu aime toute sa création et donc il aime aussi toutes les espèces. Et l'épisode de l'Arche de Noé que tu as rappelé est un bon exemple du fait que Dieu s'intéresse aussi aux espèces qu'on appelait avant les nuisibles, c'est-à-dire même des espèces dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles ne sont pas du tout nuisibles, mais qu'elles sont tout à fait essentielles, un des maillons essentiels de la chaîne de la biodiversité, parce que tout ce qui est vivant en fait est uni dans un système qui fait que si une espèce disparaît, ben ça peut avoir des impacts sur d'autres espèces, y compris les espèces dites entre guillemets nuisibles. Et on voit bien dans l'Arche de Noé que Dieu se préoccupe de chacune de ces espèces qui à l'époque étaient aussi considérées comme des espèces à la limite qu'il aurait fallu éliminer. Mais il y a déjà cette sagesse de ça. Et donc d'une part, il y a ces espèces ont vraiment de la valeur en soi pour à la fois l'écosystème et aussi aux yeux de Dieu, ça toute la Bible le montre bien. Et puis parce que la biodiversité, les écosystèmes nous rendent des services, hein, ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons alors des exemples classiques, les abeilles, les vers de terre sont des maillons essentiels à la fois pour polliniser par exemple ou pour recycler les déchets organiques pour les vers de terre, et que sans ces espèces-là, eh bien, on se retrouve face à des problèmes majeurs sur la Terre aujourd'hui, et y compris nous en tant qu'humains.
C'est-à-dire les arbres portent plus de fruits parce qu'ils sont plus pollinisés, par exemple.
Par exemple.
Et quand on jette des déchets par terre, ils se décomposent beaucoup, beaucoup moins vite, voire presque pas du tout, parce qu'il n'y a plus de vers de terre ou d'autres espèces pour les digérer quelque part.
Tout à fait. Et puis en fait, il y a plein d'études, il y en a des milliers qui montrent à quel point on a besoin, nous en tant qu'êtres humains, de la nature pour des raisons aussi psychologiques. Il y a des études par exemple qui montrent que un malade dans une chambre d'hôpital avec une vue sur la forêt ou sur de la verdure, il va guérir plus vite que s'il est face à un bloc de béton. Et même ça marche même avec une image de nature. Donc c'est pour dire que
pas grand chose.
Voilà. Il y a des études qui montrent aussi que en Angleterre il y a un nouveau diagnostic de maladie. Enfin c'est pas vraiment une maladie mentale, mais c'est une maladie psychique. Mais c'est le syndrome du déficit de la nature. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont en souffrance, en mal-être, simplement parce qu'ils sont coupés de la nature. On vit dans des mondes de plus en plus artificialisés, de plus en plus sur des écrans, avec de moins en moins de contact avec la nature. Et en fait, ça nous rend, au sens propre, malades.
Et donc, on voit l'interdépendance en fait, de tous ces phénomènes, parce que si notre surconsommation d'énergie fossile accroît les dérèglements climatiques qui eux-mêmes entraînent une perte de la biodiversité, la nature qui s'en retrouve vidée de toutes ses richesses. C'est même nos santé mentales qui s'en retrouvent plus complexes à être stables parce qu'on a ce besoin de nature. Et c'est des effets ricochets qui font qu'on peut peut-être comprendre pourquoi on entend si souvent que c'est l'homme le problème.
Oui, tout à fait. Et effectivement, on peut dire que c'est l'homme le problème dans le sens où on est à la fois responsable des émissions de gaz à effet de serre qui conduisent au changement climatique. Et on est aussi responsable de la destruction du vivant. C'est clairement l'homme qui est responsable de ce problème, de ce double problème. Et en fait, il y a même d'autres problèmes de pollution. Hein. Aujourd'hui, la pollution atmosphérique tue plus. Au cours du XXe siècle, la pollution atmosphérique a tué plus d'humains que les deux guerres mondiales, par exemple. Hein. Et aujourd'hui encore, en France, c'est plusieurs milliers de morts par an juste dû à la pollution atmosphérique. Et dans le monde, c'est des chiffres énormes aussi. Alors évidemment, c'est des morts qui souvent font beaucoup moins la une que la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la une des médias. Tout simplement parce que, évidemment, c'est souvent des personnes plus fragiles, personnes âgées, personnes qui sont en mauvaise santé physique ou des personnes plus vulnérables d'une manière générale. Donc c'est pour ça. Et puis comme c'est un peu comme les accidents sur la route, hein, ça fait pas la une des journaux parce que c'est des morts un peu cachées.
Tu nous parlais comment t'as quitté les cercles chrétiens pour rentrer dans les cercles écolos. Puis là, aujourd'hui, tu es dans les deux cercles. Donc, comment est-ce que t'as pu réconcilier ton militantisme écologique avec ta foi?
Comme je le disais déjà, de me rendre compte que à la fois dans les milieux chrétiens et dans les milieux écolos, c'était pas parfait. Ça m'a aidé à limiter un peu mon côté idéaliste et comment je pourrais dire, un peu puriste, peut-être recherche d'une certaine forme de pureté. En fait, pendant un moment, j'ai quitté en fait aussi le monde de l'écologie. Enfin, j'étais beaucoup moins impliqué. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose parce que justement, j'avais cette aspiration. J'ai dit, j'ai jamais cessé de croire en Dieu. Et je me rendais compte que dans ma vie, il manquait clairement une espérance, une forme d'espérance. Vivre ma vie juste à la poursuite de projets professionnels ou familiaux, ça ne suffisait pas. Et j'ai commencé à retourner à l'église parce que j'avais l'impression que j'avais un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. J'avais fait peut-être aussi un processus d'être un peu plus mûr, de mûrissement. Et puis, en fait, c'est ma belle-sœur, un jour, qui m'a offert un bouquin d'un ingénieur spécialiste du climat. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Donc, c'était en 2006. Il est aujourd'hui très connu. Je vous recommande d'ailleurs ses multiples interventions. Il a écrit des BD, des bouquins. Et Jean-Marc Jancovici donc faisait le lien dans un bouquin donc qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle toujours le plein s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie. Il faisait le lien. Je vous ai dit, j'étais préoccupé déjà par les questions d'épuisement des ressources et avec la question du climat en disant finalement c'est les deux facettes d'un même problème. Et puis, il parlait aussi avec un point de vue qui n'était pas un point de vue d'écolo de gauche très militant, mais qui était vraiment très scientifique, en posant les faits, en disant « après, on peut débattre des solutions, mais voilà la réalité du problème ».
Et là, tu as eu un déclic.
Et là, j'ai eu un déclic parce que Il y avait tout un côté du package. En fait, je me suis rendu compte que à la fois chez dans le monde évangélique dans lequel j'ai grandi et chez les écologistes, il y a un peu des packs idéologiques souvent opposés. C'est une forme de tribalisme en fait. Ouais, ouais, que ouais. Quand on est écolo, par exemple, membre d'Europe Écologie Les Verts, on va avoir je pense, c'est un phénomène vraiment de le fait qu'on fréquente les mêmes personnes, et puis il y a une forme aussi un petit peu d'ostracisme. C'est-à-dire, si on ne croit pas, par exemple, typiquement, donc si on est membre d'Europe Écologie Les Verts et qu'on
est un
parti politique français, qu'on est pro-nucléaire, bah, par exemple, c'est pas trop possible parce que tout de suite les gens vont dire.
C'est pas orthodoxe.
Voilà. Et moi-même, j'avais un peu des doutes par rapport à la doxa écologiste sur la question du nucléaire, c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des inconvénients, mais je vois aussi qu'il y a des avantages. Et Jean-Marc Jancovici, là-dessus, était plutôt pro-nucléaire. Donc, il cassait un petit peu cette espèce de pack idéologique.
Et de binarité.
Voilà, de binarité. Et il permettait de faire des ponts entre des parties de moi-même qui étaient un peu dissociées, qui étaient un peu écartelées. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, en même temps que je lisais ce bouquin et que je découvrais la réalité et la gravité du problème climatique et que je faisais le lien avec d'autres préoccupations antérieures, etc., j'ai eu ce que les anciens appellent une conviction de péché. C'est-à-dire que j'étais une période de ma vie où je considérais que j'étais...
Prise de conscience radicale.
Voilà, que j'étais un petit peu supérieur à la moyenne. Je me disais justement que j'étais déjà écolo, que je faisais déjà des gestes pour la planète, etc. Je me remettais pas trop en cause. Et puis, en même temps, je me disais... que j'étais que j'avais pas vraiment besoin d'un sauveur. Et le déclic pour moi, ça a été un cours aussi que j'ai fait. J'enseignais à l'époque à la fac à Lille et je faisais un cours sur l'histoire de l'esclavage. Et j'ai un étudiant qui m'a posé cette question. Mais comment est-ce que c'est possible que au XVIIIe siècle, des gens pouvaient être propriétaires d'esclaves et pas se rendre compte de l'énormité du mal qu'ils faisaient? Et il m'avait dit, pour moi, ces gens-là, c'est des barbares. Et ça ne m'intéresse pas d'étudier des barbares parce qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et je lui avais dit, mais est-ce que toi, tu penses que dans une génération ou deux générations, nos enfants, nos petits-enfants, ils ne risquent pas de nous dire, à propos du changement climatique et de la façon dont on ne s'intéresse pas au sujet, dont on continue à vivre notre vie bien tranquillou, est-ce qu'ils ne risquent pas de nous dire, ben vous êtes des barbares, quoi, en quelque sorte. Et c'est cette conviction de péché en fait, qui m'a ramené à la foi. Parce que là, d'un seul coup, j'ai compris d'une part qu'on était face à un enjeu qui était vraiment très, très compliqué et où mon intuition d'historien était que ça, c'est un problème. Si je faisais aussi le rapport avec l'abolition de l'esclavage, je sais combien ça a été difficile de changer les modalités, etc., sur l'esclavage. Et là, en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Pour l'histoire de l'esclavage, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de travail, y compris de beaucoup de chrétiens d'ailleurs. Et donc, ça m'a amené à me poser la question. D'abord, ça m'a amené donc cette conviction que oui, moi, j'étais vraiment coupable, j'étais responsable de cette crise à titre personnel. Bien sûr, j'étais pas le seul, mais ça m'a amené à vraiment me remettre en cause et à me dire, d'une part, j'ai besoin d'un sauveur. Parce que je ne le mérite pas, en fait, je suis, à mes propres yeux, je me suis dit, mais en fait, mes enfants vont dire, mais mon père, mon grand-père, il était la même chose qu'un propriétaire d'esclaves, d'une certaine façon. J'ai un peu développé ce thème dans un bouquin après. C'était aussi de me dire, mais finalement, on ne va pas sortir de cette crise sans l'aide de Dieu.
Et c'est là où, finalement, tu as vécu une sorte de deuxième conversion,
ouais,
motivée par aussi des années de réflexion, à la fois sur les aspects positifs et négatifs des cercles chrétiens, comme les aspects positifs et négatifs de n'importe quel groupe humain. Mais tu es revenu à la fois informé et aussi motivé avec ton parcours écologique.
Et tout à fait. Et je dirais que, pour moi, cette découverte du changement climatique, ça a été à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle dans le sens où ça m'a ramené à la foi et puis ça m'a aussi donné un but à ma vie parce que j'ai vraiment compris que Dieu voulait que je, à partir de là, que je m'engage, ça allait vraiment devenir le combat de ma vie pour éviter justement de me retrouver en quelque sorte sur mon lit de mort à me dire j'ai rien fait face à cette crise.
Je trouve ça très intéressant, Jean-François, parce qu'au fond, dans ton parcours, tu nous parles d'un engagement pendant l'enfance et puis d'une prise de conscience du lien entre la foi, la spiritualité et puis le monde réel, qui est vraiment des thématiques dont on discute à longueur d'épisode dans Sagesse et Morito, mais qui, toi, t'a amené à quitter les cercles religieux. Mais en même temps, en rejoignant le mouvement écologiste, tu as découvert des problématiques, tu l'as dit, que tous les humains ont en partage. Et puis, au fil du temps, ça t'a amené à reconsidérer ton engagement et au fond, en fait, trouver le sens de ta vie. C'est assez fabuleux.
Et on aura l'occasion de poursuivre la conversation avec toi lors d'autres épisodes. Alors, on vous remercie, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cet épisode, d'avoir suivi la conversation. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à réagir à ce que Jean-François a dit, à son parcours, à ses réflexions. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.
Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.